Salut à tous. Backseat, c'est LE talk show d'actualité politique sur Internet. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à rejoindre le club Backseat pour 15 euros par mois en cliquant sur le lien dans la description.
Bon, j'avais écrit réaction nouveau PM. Bon, bah c'est
bah,
niqué,
si,
voilà.
Si, si, bah si, vas-y.
Quelle est votre réaction au nouveau Premier ministre? Non, c'est rien. Voilà, donc ce sera demain matin, mesdames et messieurs. Quand vous regarderez cette émission en replay, vous aurez le nom.
C'est pas sûr.
Nous, on
tu bois vraiment la parole macroniste, il te dit.
Ah, mais jusqu'au bout, moi, jusqu'au bout.
C'est sûr. Ça, regarde, tu prends tous les bandeaux BFM depuis une semaine, c'est demain, c'est sûr, encore 48 heures. Et en fait,
c'est à chaque fois, il a un délai supplémentaire. Alors, non, mais on va en parler. Marine Tourdelier.
Faut pas croire le maître des horloges.
Moi, je voulais juste savoir quand demain matin, parce qu'il y a demain matin et demain matin, tu vois, genre,
moi, je me réveille.
Il y a la France qui se lève tôt.
Voilà. Ouais. Et il y a la France 9h du mat, qui est plutôt mon style.
Moi, c'est 11h30 du mat. La France 11h30 du mat.
Quel matin?
Bon, en tout cas, la parole du maître des horloges n'engage que ceux qui lui demandent l'heure. Donc, ne vous basez pas trop sur ces pronostics.
Marine Tourdelier, tu es la secrétaire nationale des écologistes, un des trois partis du nouveau Front populaire qui sont allés discuter.
Il y en avait quatre.
De quoi?
Ah oui, il y en a trois qui ont été discutés.
Mais laisse-moi finir ma phrase.
Ah, c'est Léa, dingue, ça. Et je crois qu'elle est communiste aussi.
Voilà. L'un des trois partis du nouveau Front populaire qui a accepté d'aller discuter avec Emmanuel Macron d'une hypothétique coalition ou accord de non-censure en vue de la formation d'un gouvernement.
Pas exactement de ça dont on a été discuté.
Alors raconte-moi, non mais en vrai raconte-nous, comment ça se passe? Comment ça se passe? T'es arrivé, bonjour.
Ouais, déjà. Était quelle heure? Vous étiez habillé comment?
En fait, il y a eu plusieurs épisodes. Le premier épisode, c'est que quand Barnier est censuré quelques heures avant, comme je suis d'un naturel pénible, je décide, revêtue de mon plus beau sourire, d'écrire à tous les chefs de parti qui ont participé au Front républicain.
Ouais.
C'est-à-dire que je n'écris pas aux Républicains, qui portent très mal leur nom et qui attendent encore leur courrier. Et donc, je leur écris pour dire, comme prévu, ça n'a pas marché votre histoire de remettre un Premier ministre de votre camp. Et donc, et si on tentait autrement, discutons ensemble, parce que personne n'a la majorité à l'Assemblée nationale. Nous, on veut encore quelqu'un de gauche, mais on aimerait discuter avec vous de comment on fait.
Donc, tu prends l'initiative avant même que Macron...
Juste avant la censure.
Okay.
Alors, j'ai tout le monde au téléphone dans les 24-48 heures qui suivent, sauf... Gabriel Attal.
Ah.
C'est intéressant pour la suite. Ensuite, le lendemain de la censure, donc c'est 24 heures après, je fais une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la rumeur enfle qu'il va nommer... la censure, c'est le mercredi soir. Mm-hmm. Et le jeudi midi, je lui écris cette lettre parce que la rumeur enfle qu'à 20 heures, il va annoncer un Premier ministre bien, bien à droite, mais en mode rouleau compresseur, c'est trop tard, c'est fini, terminé, bonsoir. Et vous ne pouvez pas censurer, sinon c'est la crise mondiale, le Père Noël annule sa tournée, tout ça, quoi. Un peu entonnoir. Je me dis, il faut s'allonger sur les roues, sous les roues du train pour qu'ils doivent s'arrêter. Et donc, je fais le JT de 13h en disant, je demande à Emmanuel Macron de recevoir tous les chefs de parti du champ républicain parce que sinon, il continuera à écouter personne et les mêmes causes produiront les mêmes effets.
De ne pas prendre une décision trop vite.
Comment
voilà,
je calme.
Voilà.
Freinage d'urgence, tu vois. Mmh.
Et ça, c'est quelque chose que vous aviez acté au sein avec les autres partis du
MP? Je les avais appelés pour leur dire que je faisais ça. Alors, il se trouve qu'entre temps, on négocie, parce que vous savez, il faut négocier les chaînes, donc on négocie le JT de TF1, le 13h. Et donc, il est 9h et le 13h disent « Ok, c'est super, par contre, vous envoyez pas le courrier avant l'émission. » Donc, je garde le courrier et j'appelle Olivier Faure pour dire ce que je vais faire. Il dit « C'est une super idée, je vais faire aussi un courrier pour t'appuyer, sauf que du coup, son courrier part avant. » Bon, bref. Tout ça n'est pas très grave. Et donc, je fais le JT, on sort. Emmanuel Macron fait son 20h, on ne sait pas s'il va annoncer un truc ou pas, et il finit par péter un câble, insulter. J'attendais la fin en mode « J'ai honte pour vous, les Français, je vous déteste, je n'oublierai pas !» Donc on voit le truc, ok, manifestement il ne va pas très bien, et on apprend le lendemain qu'il va rencontrer des gens, qu'il va rencontrer donc tous les chefs de parti de son camp, plus les socialistes. Et donc là, je dis « Tiens, c'est intéressant, il y a une sélection manifestement dans ceux qui sont fréquentables ou pas. » Et donc, je commence à aller sur toutes les chaînes parce que les gens disaient « Pourquoi vous n'êtes pas reçus ?» Et donc, je dis « Je ne vais pas faire une commission d'enquête sur moi-même. Donc, si vous voulez une explication, vous les appelez. » Et là, l'entourage de Macron dit aux journalistes politiques qui les appellent « Ah, mais c'est parce que Marine Tondelier, elle n'a pas demandé de rendez-vous. »
C'est un peu gonflé.
Donc, je dis « J'ai quand même fait le JT de 13h et je retrouve que je lui ai envoyé par texto. » La lettre ouverte.
À Emmanuel Macron?
À Emmanuel Macron.
Ah.
Plus par mail et l'adresse qu'on envoie. Bref, je suis à peu près sûre qu'il l'avait. Et donc, j'étais un peu fâchée. Et le vendredi soir, après la journée de rendez-vous, parce que du coup, il y a plein, y compris Roland Lescure, il y en a plein qui m'appellent en disant « Mais pourquoi il ne vous reçoit pas? C'est pas normal. » Je dis « Écoutez, moi, je m'en fous. » Et sur les chaînes de télé, je raconte que c'est les 6 ans de mon fils le lendemain et que de toute façon je rentre à Hénin-Beaumont parce que j'ai la piscine à boules avec tous les copains de sa classe. Il y a un grand gars à Hénin avec une piscine à boules, toboggan.
Ça, c'est très
super.
C'était
bien.
Donc je dis, écoutez, moi, je n'en fais pas une affaire personnelle, je ne vais pas me rouler par terre, j'ai piscine à boules en plus, j'ai passé une super journée. Donc je rentre à Hénin. Sur cette entrefaite, j'ai un coup de fil du conseiller politique de Macron qui me dit, vous comprenez, Madame Tondelier, on veut vraiment vous recevoir lundi, c'est très important pour nous. Donc je dis, je dis ma phrase préférée, soit c'est du manque de respect, soit c'est de l'incompétence, et dans les deux cas, c'est un problème à votre niveau. Non, 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 mais vraiment, bon, je prends le point, bref. Et donc, on décide d'y aller le lundi, et ce qui est très drôle, c'est que quand je suis rentrée dans le bureau de l'Élysée, donc moi, c'était vraiment pour dire les choses cash, comme d'hab, j'ai les mérites d'être pareil sur les plateaux télé, à l'entrée du rendez-vous, pendant le rendez-vous, à la sortie, donc ça se passe exactement comme ça. Et je rentre, et puis Emmanuel Macron dit donc, voilà, vous avez vu, on a reçu vendredi un tel, on reçoit ce matin les communistes, vous... Puis le RN est appelé. Alors je dis, je comprends pas, le RN, quand je suis rentrée, je lisais encore à la presse, ils étaient en train de s'énerver parce qu'ils n'avaient pas de rendez-vous. Elle me dit, oui, j'ai fait exprès, ils sont appelés que ce matin pour bien marquer la différence avec les autres. Et donc du coup, je dis, oui, je vois bien, c'est comme vous avez fait entre moi et les socialistes. Et là, il bloque comme ça en disant, bon. Et il fait, non, mais c'est parce qu'en fait, je dis, non, il n'y a pas d'explication en fait. Le message est reçu, c'est très clair, je vois ce que vous essayez de faire. Et donc il a tout de suite, il a dit, non, mais je sais que je n'irai pas là-dessus avec vous. Donc j'arrête de combattre là-dessus, on va parler maintenant de tout le reste. Et donc c'était un rendez-vous assez cash et qui a le mérite d'exister, parce que je trouve qu'on a beau ne pas être d'accord du tout, je pense qu'en démocratie, l'incommunicabilité, c'est le pire. C'est quand t'es même plus capable d'être dans la même pièce pour te parler, quoi.
Mais certains de vos partenaires du Nouveau Front Populaire vous accusent de trahir le programme du NFP.
Qui aurait pu dire ça ?
Les Insoumis vous accusent d'être des traîtres parce que vous allez négocier le programme sur lequel vous avez été élu et que vous allez baisser vos frocs devant le président de la République pour participer à un gouvernement.
Ils ne le disent pas exactement comme ça.
Ça dépend lesquels.
Si tu regardes l'interview qu'on a faite la semaine dernière d'Hugo Bernalicis, on n'était pas très loin.
Par contre, très souvent, ils vont dire... ça sert à rien d'aller discuter avec ce mec qui de toute façon fera comme il a décidé lui, et on s'attend tous à ce que ce soit décevant demain.
Ah bah non, mais voilà. On n'est jamais déçu totalement, hein. Il y a toujours des surprises qu'on n'avait pas prévues quand même.
Oui, mais jamais dans le bon sens quand même.
Mais vous présentez quoi là par exemple?
Non, mais moi, après cette discussion, juste pour répondre sur la critique des Insoumis, moi premièrement, je respecte tout le monde. Si je commentais toutes les minutes ce que je pense de ce qu'ils font, on serait pas rendu, et je vois pas l'intérêt en fait de se donner en spectacle, donc je le fais pas. Je peux comprendre que ce soit pas leur stratégie et je le respecte, parce que dans le Nouveau Front Populaire, c'est la biodiversité d'un écosystème, n'est-ce pas ? Chacun y a son poste, joue un rôle différent et c'est OK en fait. Okay. Mais j'estime que quand vraiment t'es à fond dans les causes, les gens et les valeurs que tu prétends défendre, tu peux pas dire, tant que c'est pas le grand soir où j'ai pas tous les leviers d'action et les pleins pouvoirs pour mettre en œuvre 100% de mon programme, j'attends. Et je trouve que, enfin moi, j'étais encore du coup à Hénin-Beaumont ce week-end, quand tu discutes avec les parents, juste des gamins de ta classe, il y a des gens... Tu leur mets peut-être pas le SMIC à 1 600 €, mais à 1 500, et peut-être qu'ils prennent en fait. Peut-être qu'en fait, ils préfèrent qu'on aille toper là-dessus. Mais ça veut pas dire qu'on va être ministre du gouvernement Retailleau, qu'on va négocier je ne sais quoi avec je ne sais qui. Ça veut juste dire que j'ai appris dans la première partie que tu avais dit qu'on n'avait pas gagné les législatives.
Ouais, je suis toujours en désaccord là-dessus, ouais. Non, je te jure, à 200 députés, vous n'avez pas encore gagné les élections.
J'ai fait de mon mieux.
D'accord. Ouais, je sais. Non, mais donc, il y a quand même 27 sondages sur 27 qui donnaient Bardella à Matignon. Il n'y est pas. Première victoire, n'est-ce pas ? Première victoire.
C'est, non,
pas
c'est une non-victoire de Bardella. Jusque-là, c'est pas encore. Ouais, ouais.
On prend. Et deuxièmement, on était quand même premier. Donc, c'est comme ça. On n'a pas la majorité absolue, t'as raison. Mais ça veut dire qu'il y a trois blocs à l'Assemblée. Ouais. Le bloc NFP, ça on voit bien. Le bloc des centristes macronistes, là. Et j'appelle ça le bloc facho. Mais quand je suis dans le bureau des présidents, je dis le bloc Rassemblement National Ciotti.
C'est joliment dit.
Et donc, pour gouverner, moi, je pense pas qu'il faille faire un gouvernement d'intérêt national, de je sais pas quoi. Déjà, un gouvernement d'intérêt général, ça voudrait dire que les autres étaient pour des intérêts particuliers. Remarque, c'est vrai, mais c'est bizarre d'appeler ça.
Ça le mérite d'être honnête. Hein.
C'est ça, ça le mérite d'être honnête. Mais je pense pas qu'en ajoutant des carottes, des navets, des carpes et des lapins, tu fasses un gouvernement, en fait. Donc moi, je pense qu'il faut assumer d'avoir un gouvernement compact et cohérent. Et qui, par contre, qu'il soit macroniste ou Nouveau Front Populaire, va devoir aller chercher des alliances à l'Assemblée. Un gouvernement qui pourra mettre en place tout son programme, ça n'existe pas. Et c'est encore plus compliqué, là, en décembre, que ça ne l'aurait été le 8 juillet dans l'élan des élections. Donc ça, faut l'avoir en tête.
Mais est-ce que ce serait pas efficace d'obtenir la démission d'Emmanuel Macron pour provoquer des élections présidentielles et remporter une bonne fois pour toute la bataille ?
Alors,
ça aussi, c'est une stratégie qui
est proposée. C'est une vraie question.
Pas sûr que ça suive derrière dans les urnes à l'Assemblée.
Déjà, pas sûr.
Déjà, de toute façon, l'Assemblée, elle reste.
Oui, c'est ça. Déjà, l'Assemblée reste. Deuxièmement, Macron, si t'as un moyen pour le dévisser de son siège, tu m'expliques, mais je n'en ai pas. Donc, on va pas aller assiéger l'Élysée avec des baïonnettes, en fait. Et troisièmement,
il y en a qui pourraient le faire, mais
ne mais, faites pas ça. Et troisièmement,
mais refusez de discuter avec. Non, mais troisièmement,
moi, j'ai par exemple eu, tu vois, j'ai eu les responsables syndicaux des plus grosses centrales de ce pays, des plus grosses centrales syndicales. Y compris les plus radicales, je ne cite pas de nom, mais me disent, Marine, il y a 300 plans de licenciement en cours, des dizaines de milliers d'emplois, et ils disent, s'il y a une présidentielle anticipée là, maintenant, si on passe Noël et Nouvel An là-dessus, c'est une catastrophe. Parce que vraiment, là, par exemple, rien que le jour de la censure Barnier, le lendemain, Renault, il a annoncé un truc qu'il n'y avait aucun gouvernement pour parer. Et donc, elles
pas
disent...
Le chanteur, hein.
Comment ?
Pas le chanteur.
Non.
L'autre.
Toujours debout.
Expliquer. L'autre, celui qui supprime des emplois.
Il faut expliquer aux gens. Oui.
Mais donc, du coup, voilà, elles me disent, il faut faire très attention et il faut... tu vois, elles, limite, elles sont pour un gouvernement d'urgence, en fait. Elles, c'est plutôt un gouvernement transitoire d'urgence. On se met d'accord sur les 10 sujets les plus urgents. Perte des emplois industriels, je sais pas quoi, 10 sujets, et on fait que ça pendant 6 mois et on attend la dissolution. Il faut entendre que, en fait, les gens à différents endroits de France pensent des choses différentes selon l'endroit où ils sont. Et par ailleurs, pour tous les gens qui disent, mais les politiques, mettez-vous d'accord, débrouillez-vous, c'est quand même pas si compliqué. Moi, j'ai regardé sur BFM où ils me disent exactement ça sur le plateau de l'éditorialisme, bah, mettez-vous d'accord, rien, vous êtes nuls. J'ai dit, mais vous avez entendu, les 2 heures d'avant, il y avait une édition spéciale avec des Français qui venaient parler de leurs problèmes. Alors, ils étaient tous pas contents, c'était leur point commun. Mais il y en a une qui était pas contente parce qu'elle payait trop d'URSSAF et trop de charges sur ses salaires. L'autre qui était pas contente parce que son SMIC était pas assez élevé. Donc, certes, tout le monde n'est pas content, mais les Français demandent des choses très différentes. Ils ont voté pour des choses assez incompatibles. Et donc, c'est normal que ce soit pas facile derrière. C'est pas que de la faute des politiques qui sont nuls, en fait. Il y en a aussi qui sont nuls, par ailleurs. Mais c'est pas juste ça, le sujet.
Malek ?
2 questions. Est-ce que tu regrettes d'y être allé lundi au rendez-vous avec Macron ? Et deuxièmement, qu'est-ce que tu lui demandes ? Est-ce qu'on parle d'une composition gouvernementale ? Est-ce qu'on parle de mesures concrètes pour la vie des gens ? Qu'est-ce que tu lui dis ?
Alors, moi, je regrette jamais parce que je pense qu'on a toujours... su faire de ces rendez-vous quelque chose. Vous vous rappelez les rendez-vous de Saint-Denis, là, on était les chefs de parti, ça durait 13 heures à côté d'Éric Ciotti. À un moment, ils ont servi à manger pour nous restaurer, c'était du pain tado. Moi, je suis végétarienne, j'étais
Le pain
tado, c'est
dur. On
va attendre encore quelques heures. Donc, c'était... Il y a plein de gens qui disaient ça sert à rien, il y aura pas de suite. Sauf qu'en fait, j'y étais et que j'ai pu faire un tunnel de 20 minutes sur l'écologie à un moment et que je me dis bah il y a peut-être des gens autour de la table, c'est le seul moment où ils en ont entendu parler dans leur mois. Et je trouve toujours que c'est intéressant. Après, on n'est pas juste là pour faire une thèse et voilà. Mais je trouve qu'Emmanuel Macron, il est quand même poussé dans ses retranchements. Le fait qu'il n'ait pas nommé le jeudi à 20h, mais qu'il ait dû organiser cette réunion, c'est intéressant. Le fait d'avoir tout le monde autour de la table, c'est intéressant aussi parce que bon, moi, il y avait les Républicains, donc j'ai pu leur dire en face. Avec toute mon honnêteté, ma sincérité, que je trouvais qu'ils ne devaient pas être là. D'ailleurs, ils sont venus à 6 parce que c'est tellement de bim chez eux.
C'était probablement réciproque.
Vous savez, ils ont une sorte de direction transitoire. Ils sont venus à 6 parce qu'il y a différents... Enfin, on aurait dit les Verts des années 90, quoi. Et je leur ai dit, ça ne les a pas du tout fait rire, cette blague. Vous êtes beaucoup plus drôles. Et voilà.
Mais t'as pris des auteurs, toi.
Comment ?
T'as pris des auteurs ?
Non, c'est mes vraies blagues.
D'accord, ok.
Mais franchement... C'était un rendez-vous assez intéressant. Et puis moi, vous me connaissez, j'étais là. Bon, alors, donc là, si j'ai bien compris, c'est ceux qui ont participé au barrage républicain plus les Républicains. Voilà. Et donc je dis, donc votre point commun, c'est normalement de pas vouloir que le RN gagne, si j'ai bien compris, et que j'oublie le communiqué de presse de Matignon qui cite Le Pen et tout ce que vous avez fait pendant 3 mois. Bon, soit. Vous expiez vos péchés et vous voulez faire autre chose, j'entends. Mais du coup, est-ce que vous avez compris que si vous ne changez pas de politique en 2027, c'est ça qui va arriver ? Et c'est là, non, pas vraiment, si. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Faure et Roussel, on n'a pas le même tempérament, on n'a pas le même langage, mais dans ces passages de relais-là, tu peux toujours compter sur un des deux pour reprendre le bâton derrière.
Vous étiez unis tous les trois ?
Alors, on n'est pas du tout au même endroit, mais c'est jamais le cas, il nous éclate. Moi, j'étais à côté d'Emmanuel Macron, je crois qu'il m'avait mis là pour m'avoir à l'œil, tu sais, un peu genre... il y avait Gabriel Attal d'un côté, mutique. Il a parlé une fois 45 secondes, je sais pas...
Il a dit quoi ?
Qu'il n'avait pas de ligne rouge, sauf LFI et notre programme, apparemment. Non, ça, c'était Laurent Wauquiez.
Non, mais sympa.
Ça, c'était Laurent
Wauquiez. Convivial.
Ils étaient tous là en mode, je n'ai pas de ligne rouge, mais, oui, je crois que ce que tu vas prononcer s'appelle une ligne rouge, mais c'est pas grave.
Ouais.
Et donc, voilà, nous, on est... Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on s'était bien calé avant avec les socialistes et les communistes, malgré les choses où on n'est pas d'accord. Hein. Et en fait, on est arrivé en disant, nous, on a une proposition. Et ça, bon, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Un Premier ministre macroniste ? Ah non, raté les gars. On veut un Premier ministre, alors je dis moi, issu de la gauche et des écologistes, du Nouveau Front Populaire, et je dis arrêtez de nous dire Jean-Yves Le Drian, je sais pas quoi, parce qu'il a été socialiste il y a 10 ans. Hein. Je dis Gabriel Attal, il n'était pas Premier ministre de la NUPES, alors qu'il a eu sa carte au MJS. D'ailleurs, il a dit non, j'ai jamais eu ma carte au MJS, donc j'ai dit, t'aurais pu, Gabriel. Et donc, tout le monde s'est marré dans la pièce. Donc, j'ai dit, quand on dit issu des grands de la gauche et des écologistes, c'est genre de maintenant, quoi, c'est pas d'il y a 10 ans, voilà. Et on dit, donc, En échange, puisqu'il faut un compromis, n'est-ce pas, on s'engage à pas utiliser le 49.3. Mmh. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais en fait, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que tu es obligé de respecter la démocratie parlementaire. Donc, ça veut dire, oui, que tu peux pas appliquer 100% de ton programme, mais de toute manière, c'est pas possible, en fait. Donc, ça tombe bien. Et tu quelque part, tu prouves à ceux qui disent « mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Tout va nous échapper ?» Bah non, parce que le Parlement pourra faire son travail et ça nous changera depuis les dernières années. Et une fois que tu as dit ça, donc tu le dis, l'autre le redit, on est déjà trois à l'avoir dit sur 6 tours de parole, donc ça commence à un an. Puis après, tu dis « mais par contre, moi, au milieu de la réunion, je réinterviens en disant « mais j'ai pas bien compris, par contre, comment on était venu pour faire des compromis. J'en ai entendu aucun à part celui que nous, on vient de faire, donc j'aimerais... » J'aimerais comprendre, en fait, quel compromis vous proposez, à part que ce soit encore vous, encore avec votre politique, alors que vous avez perdu les élections. Oui, non, mais en fait, nous, ce qu'on... Et puis, ça repart pour un tour où t'as rien compris. Et je trouve qu'on a été bons. Et que, d'ailleurs, quand tu regardais le film à la sortie, ça renvoyait quand même Macron dans ses 33. Et l'avantage, il va nommer qui il veut. On le connaît, on va pas faire semblant que parce qu'on lui a parlé 3 minutes, il a changé d'avis. Mais il pourra plus dire... Vous avez Michel Barnier ou Retailleau ou je sais pas qui, et c'est à cause du NFP qui a pas voulu faire de concessions, qui est inflexible, parce que c'est ça, moi, qui m'a blessé, en fait, cet été. Ça s'est fini comme ça devait se finir. Le mec n'a jamais eu l'intention de céder le pouvoir. Mais il a pu dire, et dans l'opinion publique, ça a eu prise un peu, que c'était à cause de nous. Et ça, faut pas retomber dans ces pièges-là. Et il y a un sondage qui est sorti hier qui est assez intéressant. Vous savez, quand on fait ça, on se met en risque, hein. Les insoumis disent trade vendu, machin truc, c'est retweeté. Moi, j'ai l'impression d'en avoir moins pris dans la gueule que d'autres, mais quand même, c'est pas agréable. Et alors tu le fais pour de bonnes raisons, et je pense qu'on peut se faire confiance. Les gens, ils savent que je vais pas aller vendre, j'allais dire mes fesses, mais c'est très vulgaire. Je veux pas aller me vendre pour un poste ou pour. Enfin, moi, je veux pas être ministre d'un gouvernement macroniste, de je sais pas quoi. Hein, mais il y a zéro chance.
Vous abandonnez Lucie Castet. Vous abandonnez Lucie Castet.
Absolument pas.
Elle est toujours sur la table, l'option Lucie Castet?
Ben, il se trouve que ce matin, encore au cas de vérité à Télématin, j'en ai parlé parce que le présentateur, ils sont quand même le présentateur. T'as vu, c'est un lapsus.
C'était qui
le présentateur?
Comme moi.
Arnaud.
Arnaud quoi?
Julien Arnaud.
Ah, non,
parce que sur Télématin maintenant. Ouais.
Mais bon, tu vois, il dit, je montre le sondage qui est sorti hier, qui dit, donc déjà, il y a 63% des Français qui disent qu'ils sont prêts à consentir un gouvernement de gauche si on renonce au 49.3. Intéressant, ils ont mieux compris notre proposition que les macronistes. Et surtout, il y a un sondage des Français, donc il y en a 41% qui préféreraient quelqu'un issu de la société civile ou du monde de l'entreprise. Mais quand tu vois, donc après, il y a 22% quelqu'un de gauche.
La gauche.
Et il y a 6% seulement qui veulent un premier ministre issu du camp macroniste. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont voté pour eux. Mais ils trouvent, ils doivent. Mais non, mais ils disent, bah, on a perdu, c'est tout. Il faut arrêter d'insister, on n'aura jamais de budget sinon. Donc je monte ce truc-là. Et puis il dit, ouais, mais voyez, il veut quelqu'un de la société civile et de gauche. Est-ce que si on additionnait ces deux lignes, donc de gauche et société civile, on pourrait. Et donc je me dis, le mec va dire Lucie Castet. Et le mec me dit, on pourrait pas arriver à quelqu'un genre Pierre Moscovici.
Oui.
J'étais là.
Actuel société premier président civile, de la Cour des comptes.
Il me dit, bah oui, parce que il est plus au Parti Socialiste. Je dis, mais vous arrêtez quand même c'est de l'économie circulaire.
Pierre Moscovici est un ancien ministre de l'économie, ancien commissaire européen, actuel premier président de la Cour des comptes.
Et du coup, je lui disais, mais vous en avez pas marre, vous voulez pas donner des noms de femmes, des noms de jeunes, des nouveaux? Puis là, il me fait, Bernard Cazeneuve? Non. Et en fait, il y a quand même un truc, je pense qu'il faut qu'on se dise, et je sais qu'ici vous serez d'accord, c'est que faut arrêter avec les mecs, ça fait des décennies qu'ils sont là, ils n'inventeront plus rien de nouveau, alors que là, ce dont on a besoin, c'est quand même un truc nouveau, un peu d'élan, de souffle, d'espoir, d'enthousiasme, enfin quelque chose, quoi.
Léa.
Voilà.
Oui, ouais, c'est bien dit, effectivement. On vient de parler un peu de la méthode, une tentative de méthode, je sais pas trop comment nommer ça, mais la presse nomme ça la méthode Macron, pour essayer de nommer effectivement un nouveau Premier ministre et avoir un gouvernement qui tienne à peu près la route. À sa place, vous auriez fait quoi? Comment vous seriez prise?
Ah, mais je crois que je ne serais pas à sa place.
Ah non, oui, ça, c'est pas la réponse que j'attendais.
Non, mais je ne me mettrais pas dans ce genre de situation.
C'est-à-dire, vous laisserez Matignon faire, vous laisserez le Parlement faire?
Ouais.
Si vous étiez présidente de la République,
ouais, actuellement, avec la configuration actuelle, admettons, vous êtes présidente de la République, votre majorité est celle qu'Emmanuel Macron a aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous faites?
Moi, je pense que la base, c'est quand même de respecter le résultat des élections. Enfin, je suis désolée, je suis peut-être vieille France, hein, mais c'est un truc qui se fait normalement en démocratie.
C'est pas moi qu'il faut convaincre.
Non, mais parce que, en fait, je me dis, souvent, je m'explique.
Non, mais c'est...
Jean, regarde-moi.
Explique-moi comment tu respectes le résultat des élections.
Comment vous y prenez, je veux dire.
Alors que tu as toi-même dit que ces élections ont produit une assemblée tripolarisée.
Là, on parle d'accord. Oui, pardon, juste pour terminer mon petit cas pratique. Enfin, l'énoncé du cas pratique. On parle d'un accord de non-censure. C'est ce qui a été posé sur la table. Est-ce que vous feriez autre chose en proposant... Là, c'est ce qui tourne, en tout cas, à ce stade. En proposant peut-être une proposition sur la base d'un programme avec des partis qui se mettraient d'accord, etc., des fausses politiques, quitte à ce que ça prenne davantage de temps, qu'est-ce que vous feriez?
Alors, j'accepte le cas pratique, mais on est d'accord, j'ai pas fait 40 milliards de cadeaux aux plus riches, j'ai pas fait 9 millions de pauvres, j'ai pas fait une action climatique.
Vous êtes Marine Tondelier avec vos convictions, avec vos compétences, votre histoire, tout.
Ce que je lui ai expliqué, c'est que l'excuse de dire, parce que ça fait deux fois qu'il nous sort l'excuse de la censure possible. Il dissout, dans ses arguments de dissolution, il dit, si je dissous pas, on pourra pas voter de budget, il y aura une censure.
Ah bah super.
J'ai une stratégie. Et quand il nomme Barnier, après, je vous rappelle tout un été où il se fout de notre gueule quand il dit « Non, mais malheureusement, je ne peux pas nommer de Premier ministre en juillet, en août, parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Mais pourquoi tu fais une dissolution en juin, Emmanuel ?»
La trêve olympique.
Vraiment. Ouais, non, mais ouais. T'as le droit de pas vouloir changer de Premier ministre. Bah, du coup, tu dissous pas, en fait. C'est plus simple. Et il finit par nommer au bout de 51 jours Michel Barnier, qui met lui-même 3 semaines à faire un gouvernement, je vous rappelle, hein, pour au bout de 3 semaines, faire son gouvernement. Si Lucie Castet avait mis plus de 24 heures... Elle aurait été conspuée par tous les itinéristes en mode, mais elle est vraiment nulle, voilà, faut arrêter de mettre des femmes. L'incompétence, ils ne sont d'accord sur rien.
Edith Cresson, je retrouve.
J'étais, ouais. Les épaules.
Ouais, j'étais sommée de me justifier sur le fait que je m'étais bien mise d'accord avec Fabien Roussel sur le nombre d'éoliennes qu'on allait mettre dans le bassin Créoua en Picardie. Enfin, c'était vraiment, on était. Et eux, ils mettent 3 semaines à faire un gouvernement, ils sont même pas d'accord sur est-ce qu'il faut augmenter les impôts, oui ou non, tu vois. Ils en débattent ensemble, publiquement, entre eux dans la presse. Donc, tout ça est très sérieux.
C'est un grand moment.
Et donc, quand il nomme Barnier, il dit, je nomme lui, je peux pas nommer Lucie Castet, vraiment, je nomme lui, je suis obligée parce que c'est le seul dont j'ai pu m'assurer qu'il ne serait pas censuré.
Ah bah banco.
Une deuxième fois. Et donc, dans son bureau, là, quand on y était vendredi, je lui ai dit, mais faut arrêter de penser, enfin, vous êtes président de la République, c'est-à-dire que si vous dites, je nomme Lucie Castet parce que, premièrement, je pense qu'il avait le devoir de nous laisser essayer. Au pire, on se viandait, et puis c'était notre faute. Il pouvait pas ne pas nous laisser essayer. Donc, il devait nous laisser nous y coller. Et deuxièmement, bah, s'il a peur qu'elle soit censurée, mais il a quand même des députés à lui dans cette affaire. S'il demande à ses députés de ne pas la censurer, je ne dis pas que tout le monde le fait, mais je lui ai dit dans son bureau, je dis, vous avez normalement un peu de prise sur vos troupes, quoi. Mm-hmm. Bon, il m'a dit que non.
Usul.
Bon, d'après ce qu'on a compris, à un moment, il semblait que Macron avait plus envie de se retrouver dans la main du RN, hein, que finalement, c'était pas des alliés si fiables que ça, ils ont leur propre agenda.
Mais voilà. Je sais pas, tu lui dis ça, il dit non, mais ça, c'est Michel Barnier, moi, c'était pas ça.
Ah, maintenant, il dit ça?
Et puis, c'était à cause de nous, parce que comme on voulait pas discuter, bah, il devait discuter avec les seuls
mecs. Parce que là, s'il nous renomme un autre avatar du macronisme et des politiques qu'on connaît déjà, voilà, la reconduction du même avec une nouvelle tête, donc le RN, peut-être cette fois-ci, ne censurera pas tout de suite, mais s'il n'y a pas d'accord de non-censure,
bah, les mêmes causes produiront les mêmes conséquences.
Oui, mais ma question, c'est s'il n'y a pas d'accord de non-censure, est-ce que cette fois-ci aussi, toute la gauche va dire comme un seul homme, on censurera.
C'est une vraie question.
Ah, est-ce que
c'est une vraie question, et pour tout vous dire, j'ai encore passé l'après-midi à me la poser. Alors c'est très difficile parce que on sait même pas qui est le Premier ministre. Alors si c'est Retailleau, pareil que si c'est, je trouve pas de nom bien en fait, hors de l'NFP, désolé.
T'as pas envie
de
te mouiller aussi sur un nom parce que...
Un truc qui ressemble un peu plus au socialiste dans l'esprit, où Laurent Berger accepterait d'y aller.
Non mais Laurent Berger, non.
Il veut pas, mais bon.
Non mais on a dit tout à l'heure la région, ce sera peut-être Berger, je pensais Aurore Berger, j'ai eu peur, mais après...
Waouh, tu m'as fait peur moi aussi.
Bah ouais, ils ont tous les mêmes noms, comment va-t-on faire?
Tu trolles.
Non mais il y a un truc où... Tu vois, par exemple, nommer Cazeneuve ou je sais pas qui, d'ex-socialiste, pas trop, mais un
Michel
peu encore.
Michel Sapin, allez. Ce serait sympa, ça.
J'y ai pensé.
Pour Noël, Michel Sapin, pour Noël.
Vous me
tentez. J'y ai pensé.
Bah, ça, par exemple, c'est...
Tiens.
C'est fracturé. En fait, après avoir fracturé le NFP, c'est fracturé le Parti Socialiste. Mmh. Parce qu'il y en a qui iraient, d'autres qui iraient pas. Donc voilà, là, ce qu'on voit, par contre, c'est que depuis qu'il y a l'option Roland Lescure qui circule... C'est les à couteau tiré au sein du camp macroniste où c'est moi il y avait les gens de l'UDI dans les Hauts-de-France là au Conseil général qui nous voient en disant surtout pas Bayrou, faut faire quelque chose, interposez-vous, et en fait tu vois que c'est un camp quand même, nous parfois on a nos défauts, ok, mais chez eux c'est pire quand même.
Ah bah voilà,
donc il y a un truc comme ça. Donc voyons qui nomme. En fait, il y a deux solutions. Dire on censure tout de suite et on censure jusqu'à ce qu'il nomme quelqu'un du NFP, ce qui risque peut-être de ne jamais arriver. Et moi, je vois bien, y compris la CGT, la CFDT, qui disent tel plan, tel truc, attention, il y a urgence. Là, j'avais quelqu'un qui m'écrivait qui est, vous savez, croupier à Paris. Mmh. Eh ben, vous me demandez le rapport avec la choucroute, mais quand t'es croupier dans les casinos, en fait, les salons de jeu, il y a une exception qui a été votée pour 3 ans. Pour qu'il puisse y avoir des salons de jeux à Paris, ce qui était interdit, parce que normalement, les casinos, vous savez, c'est que
mais
dans
bien
les...
Bien sûr, c'est des...
Voilà. Ouais, ouais. Et donc, et ben, si au 31 décembre, il n'y a pas un texte financier qui réautorise ça, et ben, il y a 1500 emplois, les 1500 personnes employées des salons de jeux de Paris qui n'ont plus de contrat. Il n'y a pas non plus de chômage partiel, technique. Et moi, je commence à recevoir beaucoup de gens qui m'écrivent en disant, nous, s'il n'y a pas de la loi spéciale, ça ne couvre pas ça, quoi. il y a même, par exemple, les grandes associations environnementales qui disent, la loi spéciale, ça va reconduire les trucs de base. Nos subventions, c'est pas dedans.
On a vu aussi des agriculteurs certains attaqués des voilà.
Et je pense que là, on est tranquille dans l'émission, on passe une bonne soirée, mais quand on va arriver le 28 décembre, le 29 décembre, ça peut devenir très explosif. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. C'est de la politique, c'est pas de la politique fiction, c'est pas un jeu vidéo, c'est la vraie vie des gens. Donc il y a ça. La deuxième chose, c'est que il y a ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que on dit c'est tout le programme, rien que le programme, et tant qu'on n'a pas tout notre programme, et on préfère avoir rien et pouvoir dire que vous êtes des gros connards.
Non mais l'alternative, voilà. C'est pas où
tu viens d'imiter Jean-Luc Mélenchon là.
Non, je fais beaucoup mieux.
Non mais l'alternative, c'est pas soit tout le programme, soit la trahison. C'est que là, c'est l'alternative, c'est est-ce que la gauche gouverne et peut réparer des trucs qu'ont fait les macronistes là.
Non mais gouverner, il faut nous nommer. S'il le fait pas, il fait pas. Que veux-tu que nous fassions? Le sujet, c'est s'il nomme quelqu'un, pas de nous.
Faire une politique de gauche.
On va pas.
Est-ce qu'on a le droit?
Moi, je pense que vraiment. Il n'y a pas d'intérêt à aller dans un gouvernement. Déjà, je pense qu'ils ne veulent pas, en fait, qu'on y aille. Et deuxièmement, moi, je vois pas... Enfin, ça n'a pas de sens, en fait, d'aller dans un gouvernement avec des gens qui ne sont pas de ton bord politique.
Mais même NFP sous surveillance et avec accord de non-censure du centre, des macronistes et du bloc macroniste, bon, LFI n'ira pas là-dedans, parce que c'est d'ailleurs dans les conditions...
Ça, t'es aux commandes, quand même. Tu peux faire un décret d'abrogation de la réforme des retraites. C'est-à-dire pour ça qu'ils ne nomment pas.
Oui.
Voilà. Mais je pense que c'est quand même être aux commandes, ça se prend, même quand c'est dans une configuration complexe. En fait, on ne peut pas dire « Ah, c'est trop compliqué, on n'y va pas ». Tu vois, la vie, c'est compliqué, en fait. La vie politique est compliquée. Et là, on sait bien qu'il va falloir sortir de sa zone de confort anyway. Alors. Mais par contre, la seule question qui se pose, c'est si c'est un gouvernement macroniste... en fait, soit tu dis, on vous parle pas, et tu les condamnes à aller rebosser avec le RN, sauter à la corde et puis tomber, se viander un moment. Soit tu dis, moi ça c'est ma ligne aujourd'hui, c'est que je vois pas comment ils nous convainquent de pas voter la censure. Mmh. Je vois pas, le prix est tellement élevé par rapport à là où ils sont et là où on est, je vois pas. Mais peut-être que si tu dis, on veut l'ISF, l'abrogation de la réforme des retraites, le SMIC à 1 600 € et l'école intégralement gratuite... Et la reconnaissance de l'autorité de l'État palestinien. Je fais une sorte de liste au Père Noël et j'oubliais plein de trucs, la loi climat, interdiction de la pub pour les SUV. Ils disent oui, ah non, là, c'est vraiment dur, ah non, mais on n'a pas le choix. Tu vois, est-ce que tu prends ou est-ce que tu dis non, on te censure quand même et du coup, t'as rien. Mais ce chemin s'ouvrira-t-il? Je n'en sais rien.
S'il nous nomme un Premier ministre de gauche, comme demandé, il dit allez Olivier Faure, parce qu'il veut continuer, Macron, à casser la gauche comme il peut. Et on voit qui.
Là,
va...
il la casse pas, il lui donne les clés du camion, c'est autre chose.
Oui, mais dans quelle mesure? Parce que.
J'étais avec Olivier Faure au téléphone tout à l'heure, il n'a pas été appelé pour être Premier ministre.
Non,
enfin, je vous confie,
mais
on risque de vous décevoir.
Dans l'accord de non-censure, pourrait y avoir
la
comme condition de vous me garder. Vous me gardez quelques ministres macronistes, spécialement dans des postes régaliens importants.
Mais je vois pas
à Bercy.
On va pas faire Olivier Faure avec Retailleau ministre de l'Intérieur.
Non mais même sans LR, mais au moins avec des macronistes et avec donc un Premier ministre
mais
de
gauche.
Mais
les macronistes, ils sont de plus en plus de droite quand même.
Mais oui. Mais attends, c'est pour ça qu'il suffit qu'ils soient au bon poste.
Et
du coup, qu'est-ce qui reste en fait? Enfin, excuse-moi, mais
il reste nous comme d'habitude.
Oui, c'est ça. D'accord, avec 200 députés.
Oui, mais tu peux faire. Je vous refais mon plan de départ.
Vas-y.
Je suis désolée, il n'est pas parfait, mais j'en ai pas d'autre. Donc voilà. C'est Premier ministre issu des rangs du NFP. Mmh. Et Lucie Castet, moi j'ai encore dit ce matin, si on nous demandait un nom, c'est celui-là qu'il faut donner.
Ouais.
Après, il peut nous en proposer d'autres, du moment que ce n'est pas des provocations comme tous ceux qu'il a proposés jusque maintenant. On peut regarder. Donc Premier ministre du Front Populaire, gouvernement compact et cohérent avec des gens qui ont travaillé ensemble sur ce projet, qui sont alignés avec le projet.
Et uniquement du NFP.
Et tu t'engages à ne pas faire le 49-3. Et donc, comme tu t'engages à ne pas faire le 49-3, tu peux aller discuter d'un pacte de non-censure et en fait, tu sais qu'il y a des choses que tu ne pourras pas faire passer.
Mais
c'est comme ça.
Tu t'empêches d'utiliser la seule arme qui te permet de te sortir d'une solution inextricable.
Mais moi, je ne suis pas pour les armes.
Ok.
Non, mais je pense qu'il faut mieux convaincre.
Ça me paraît, au mieux naïf.
J'aime bien l'idée.
Oui, mais si tu te dis que tu vas faire le 49-3, en fait, déjà, ils ne te nomment pas, la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils te censurent direct.
Mais
tu
en as besoin pour pouvoir faire pression. Ou alors, comment ça, ils sont sur direct? Pourquoi ils sont sur
mais
direct?
Mais tu fais pression
si
de quoi? Tu n'as
eux.
Pas de majorité absolue.
Bah oui.
Donc en fait, ils te renversent.
C'est bien ce que je dis. D'accord.
Là, le 49-3...
Donc ils renverseront tes lois, finalement. À défaut de renverser ton gouvernement, ils renverseront tes lois.
Non, parce que par exemple, sur les super profits, le Modem, il est d'accord avec nous. Sur, tu vois, et puis je pense qu'il faut aller dire, par exemple, tu dis, les super profits, 80% des Français sont pour les taxer. Mmh. C'est pas des choses qui sont bien un mérite, un talent, c'est ça, te tombe du ciel, t'en rends 20%, rends l'argent. Bon, tu dis, 80% des Français sont pour. Alors, on va faire voter. Ah, toi, Jean-Michel, tu ne veux pas voter, Jean-Michel, es-tu sûr? On va donc l'écrire au compte-rendu, donc toute la France, regardez, Jean-Michel ne veut pas taxer. Tu vois, tu mets un peu les gens face à leurs responsabilités. Parce que le 49-3, il y a un truc confortable pour tout le monde. Parce que le gouvernement a pas à faire d'efforts. Il peut aller au rouleau compresseur. Oui, alors amusez-vous 15 jours les députés, puis à la fin, je mettrai mon truc de départ. Et pour l'opposition, c'est confortable aussi. Parce que tu fais tes trucs, tu fais ton sketch, tu dis quoi, non, tu peux faire passer des trucs qui sont inapplicables, tu dis bah j'en s'en fous, on l'a fait adopter. Tu vois, c'est pas responsabilisant. Mmh. Et donc alors c'est marrant ton truc d'arme parce que c'est j'ai entendu quelqu'un autour de la table dire oui, on fait ça parce que sinon vous avez la en fait, on vous demande en échange l'accord de non-censure parce que sinon nous on n'a plus qu'un pistolet à eau vu qu'on a plus de 49.3 et vous avez un pistolet avec des vraies balles. Donc il faut un désarmement bilatéral.
C'est pas faux, non.
Là où Édouard Philippe, j'ai entendu que Marine Le Pen l'avait dit aussi, dit il ne faut pas rendre des armes constitutionnelles parce qu'on en a besoin. Bah oui, mais là c'est pour 30 mois et peut-être moins s'il y a une dissolution. C'est dans un cas de figure exceptionnel, on a besoin de recréer de la confiance et je pense que c'est une manière de hisser le drapeau blanc en disant ce qu'on va faire, on va le faire pour la France. Tout le monde vous regarde. C'est un geste de confiance, tu te mets en risque, voilà.
Y a beaucoup de gens dans le chat qui voulaient que je vous pose la question, que je te pose la question de l'Assemblée constituante. Est-ce que tu es favorable à ce que, pour se sortir de cette impasse institutionnelle, on solde une bonne fois pour toutes la 5e République et on passe à autre chose?
Moi, je suis pour faire la 6e République, je suis pour faire la proportionnelle. Ça, il faut le faire en urgence pour que prochaine législative se fasse avec un nouveau mode de scrutin.
Avec une prime majoritaire, comme le demande Marine Le Pen?
C'est tout un débat. Moi, je suis pour laisser travailler les parlementaires là-dessus, parce qu'il y a plein de débats. Notamment, tu vois, par exemple, il y en a qui disent qu'il faut faire une... Vous savez, si t'es députée, par exemple, moi, ma région, c'est les Hauts-de-France. Bon, aujourd'hui, ma députée, c'est Marine Le Pen, donc ce cas est très fictif. À un moment, c'est Marine Le Pen. Tu fais Hauts-de-France
très
à la proportionnelle. Magnifique circonscription, tu étais venue m'aider.
Je suis venue t'aider.
Et ça nous a pas aidé jusqu'au bout, mais c'était sympa de venir. C'était pas de ta faute, évidemment, tout le monde a compris. Mais donc, tu fais les Hauts-de-France, les gens disent « Ah oui, mais ils auront plus assez de lin au territoire, donc faire une proportionnelle par département. » Le problème d'une proportionnelle par département, moi, dans le Pas-de-Calais, il y a 14 députés, donc c'est très proportionnel. Mais les départements où t'as que 2 députés, bah, en fait, ça veut dire qu'il y a des territoires qui auront accès à la proportionnelle parce qu'ils ont 14, 15, 20 députés, et des territoires où ce sera pas vraiment la proportionnelle, parce que quand t'as que 2 députés à la proportionnelle, ça reste quasiment un scrutin uninominal à 2 tours. Et donc, nous, on est pour une proportionnelle par région. Après, sur la constituante, le problème, c'est aussi le temps que ça prend, parce qu'il y a tellement d'urgence là et de crise, que si tu dis, alors, ça fait 6 mois qu'on gouverne pas, eh ben, on a un nouveau gouvernement, on arrête tout, on fait une grande constituante, on fait des petits post-it partout en France pour écrire la constitution. Bon, je pense qu'il y a quand même quelques trucs un peu urgents à faire, et notamment sur les sites industriels à sauver, là, dans les semaines qui viennent.
Peut-être commencer par une convention citoyenne sur le renouveau démocratique, par exemple.
Exactement. J'ai lu un livre là-dessus. Coliseum, je ne sais pas si vous avez vu. C'est Thomas Bronek, qui est un ancien journaliste, qui a sorti un livre. Et ils font une... C'est la France, mais genre dans 10 ans, c'est encore plus avancé. Donc déjà, il y a des féministes... extrémiste qui tue des mecs. À chaque féminicide, elle tue un mec au hasard en France et elle laisse le nom de la nana qui a eu le féminicide sur son corps en mode ça c'est pour Elsa, ça c'est pour Elodie. Et les mecs disent mais c'est hyper injuste, il a rien fait, elle non plus. Oui, mais là il pouvait pas se défendre, elle non plus. Et donc il y a un truc, tu vois, on est arrivé
à ça votre projet, Marine Tondelier.
Et surtout, il y a une convention citoyenne, parce qu'il y a une grosse crise démocratique, et donc le président qui est élu, il dit bah moi je suis élu pour tout changer. Et donc convention citoyenne, et la convention citoyenne demande que les présidentielles se jouent maintenant dans une émission de télé-réalité.
Ah oui, oh, génial, sur Baxit.
Voilà. Ouais. Et il y a un grosse bronca des députés qui n'acceptent pas, mais le président demande à chaque formation politique de faire sa primaire par télé-réalité.
On va réfléchir.
Vous irez voir.
Malek.
J'ai pas dit qu'il fallait faire ça. Mais...
Tu parlais de confiance, de crise démocratique. Tu penses quoi là de l'État dans la tête de plein de Français et de l'électorat d'ailleurs du Nouveau Front Populaire après cette séquence des 6 mois? T'en as plein qui sont allés, des fois même pour la première fois, aller voter en juin.
Et on les en remercie.
Et on les en remercie. Est-ce que tu penses qu'ils y retourneront? Est-ce que la séquence n'a pas fini par redégoûter des dégoûtés?
Ah bah si, c'est le cas d'à peu près toutes les séquences politiques depuis 50 ans malheureusement, parce que c'est ça aussi des élections, c'est que tu remets, enfin t'as l'impression que tu peux changer le monde et t'y vas et souvent ça ne suffit pas. Donc ça c'est hyper désespérant, y compris pour nous, hein, parce qu'on s'est quand même un peu donné dans cette affaire. Moi, ce qui m'embête le plus, en fait, c'est de voir les gens se déchirer et, en fait, on a le droit de pas être d'accord. C'est OK, en fait, on n'est pas dans les mêmes partis. Donc, c'est sûr qu'un insoumis, un socialiste, ils vont pas partir en vacances ensemble.
Oh, et si. Il y en a.
Est-ce qu'ils reviennent de vacances ensemble?
Non, ça, c'est pas sûr. Voilà. Ça, c'est pas sûr.
Non, mais et on n'est pas obligé d'être amis tout le temps et d'être d'accord sur tout. Mais il y a un truc de respect et de. Moi, j'ai
Jean, on est déjà parti en vacances ensemble.
Je suis pas socialiste. Hein. t'es pas insoumis non plus, que je sache.
Ça s'embrouille déjà, j'imagine. Non, mais je pense qu'il y a un truc élémentaire. Je vous ai parlé tout à l'heure de la biodiversité. J'essaye d'appliquer des concepts écolo à chaque fois. Là, je vais vous parler d'efficacité énergétique. C'est qu'en fait, quand dans ta vie militante, on va dire sur 24 heures, on doit militer à peu près 20 heures quand on est chef de parti. Et si t'en passes la moitié à embrouiller les autres de ton propre camp politique, en fait, je vois pas l'intérêt. Et moi, j'en ai marre qu'à chaque fois que je fasse un plateau télé, ce soit pour me dire que pensez-vous d'Olivier Faure qui a dit sur Jean-Luc Mélenchon, qui avait dit sur Olivier Faure, qui avait lui-même dit sur Jean-Luc Mélenchon. Bah rien, en fait, je m'en fous, ça me saoule. J'ai un avis personnel. Mais tu vois, à un moment, faut arrêter de se donner un spectacle. Moi, j'ai pas envie que les autres soient avec des pop-corns en train de dire alors que va faire le NFP aujourd'hui. Vraiment, on sort les pop-corns, on va encore se marrer. J'en peux plus de ça.
Et s'engueuler.
Voilà.
Malek. Sous les fenêtres de ton parti, il y a une jeune génération qui est venue dire ne nous trahissez pas.
Ils étaient venus crier. Oui, et la jeunesse exige le Front Populaire.
Et j'ai cru comprendre que ça avait accéléré les négociations.
Ah oui, parce que ceux qui étaient là en train de dire non, mais la virgule, est-ce qu'on la met là ? Il y a 600 mecs derrière qui vont bientôt finir par cramer les poubelles. Et ils auront raison. Et je disais, si quelqu'un veut aller sur le trottoir partir, c'est vrai. Et je disais, s'il y a des gens qui veulent partir, et expliquer sur le trottoir aux 600 personnes bon que courage. Parce que leur nom était après le deuxième au lieu du troisième, ils veulent partir. Je vous souhaite bon courage. Et j'avais ouvert la fenêtre en disant « chantez plus fort, chantez plus fort ». Et ça a un peu accéléré.
Mais avec ce « donc ne nous trahissez pas », avec cette jeunesse qu'a exigé le Front Populaire, c'est quoi là le travail pour qu'on y arrive enfin et qu'on change la vie des gens ?
Alors la première question, c'est quoi trahir ? Est-ce que trahir, c'est avoir pu appliquer que la moitié ou un quart de ton programme, ou avoir dit « je voulais tout et je lâcherai rien !» et à la fin, t'as rien, mais t'as rien lâché, mais t'as rien. Donc tu vois, ça, c'est des gens un peu philosophés 6 heures. Et surtout, moi, ce qu'on leur doit, c'est de préparer les prochaines élections. Et je vous avoue que vous avez peut-être vu qu'avec Lucie Castet, on a lancé un petit move.
J'allais y venir.
Bah, j'y réponds maintenant ou pas, comme tu veux, je ne veux pas perturber.
Non, mais alors pour ceux qui nous écoutent, effectivement, il y a une semaine, Lucie Castet et toi avaient lancé une initiative toutes les deux pour trouver une issue pour l'avenir de la gauche qui passerait selon vous deux par une candidature commune au nouveau Front Populaire à l'élection présidentielle. Est-ce que tu peux nous raconter d'où vient cette initiative ? Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec Lucie Castet ? Et est-ce que vous lancez pas un pavé dans la mare au mauvais moment ?
Et je précise un truc que j'avais entendu il y a quelques années, c'était au moment de la NUPES, un certain Jérôme Gage dire cette candidature unique n'aurait aucun sens si en fait elle s'appuyait pas sur d'abord un programme commun, une plateforme unique. Ce travail programmatique, est-ce qu'on part du principe qu'il a été fait et que c'est là-dessus ? Parce que si c'est juste une histoire de casting et que en fait c'est ça ce qui joue dans une primaire, c'est-à-dire qu'en effet quand t'es au PS c'est pas pareil de voter Manuel Valls que de voter Benoît Hamon parce que ça va pas être la même politique. Là l'idée c'est que ok, jouons le jeu du casting de on vote, par contre c'est pour la même politique qui aurait été décidée en amont, qui est claire à peu près pour tout le monde, qui peut reposer sur ce qui a déjà été fait pour le Front Populaire ou pour la NUPES. Est-ce que c'est ça l'idée de garder quand même de rester sur une gauche de rupture ou de encore refaire le match avec la droite du PS, avec les Glucksmann, etc., qui voudraient qu'on rompe avec la rupture ?
Marine Tondelier.
Ça fait beaucoup de questions. La première chose que je vais dire, je vais commencer par être positive, c'est de dire quand même que malgré les petites frictions qu'il y a parfois, moi, je serai éternellement reconnaissante à Manuel Bompard, à Olivier Faure, à Fabien Roussel, parce que tous, avec nos défauts, on a réussi à le faire. Ce nouveau Front Populaire, et c'était très... Évidemment que c'est politique, mais les facteurs humains, ils comptent aussi beaucoup. Enfin, le fait, par exemple, d'être avec des Hauts-de-France tous les deux avec Fabien et de pouvoir se parler en chute, d'aller se détendre dans l'arrière-cuisine en disant « Bon, Fabien !» Le fait avec Olivier d'être toujours en confiance, le fait avec Manuel de s'être quasiment pas parlé pendant un an et puis tout d'un coup, s'être dit « Bon, c'est bon, t'as compris, j'ai compris, t'as compris. »
Il y a toujours les réunions hebdo de chez
Et bah justement, ce matin, on en avait encore une.
C'est le jeudi, oui.
Ouais, et ça, je trouve ça hyper important parce que de ces réunions, par exemple, rien n'a jamais fuité. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir un cadre de confiance. Vous savez, il y a beaucoup de réunions politiques où vous allez et vous savez que ce qui va compter, c'est pas la réunion, c'est comment elle va être racontée à l'extérieur dans la presse. Et donc, tu vois que les gens, ils font leur interne pour pouvoir dire « Et j'ai dit ça ! Et lui, je lui ai dit ça ! Après, j'ai fait ça !»
Comme quand tu vas à l'Élysée.
C'est exactement ce que tu fais quand tu vas à l'Élysée. Pardon, mais t'as commencé toute l'interview comme ça.
Mais évidemment. Mais tu sais, moi, ma première réunion des chefs de parti Saint-Denis, j'ai vu à la fin ce qui en était fait dans la presse. J'ai dit « Ok, c'est ça le game. Ok, pas de problème. Je vais jouer à ça.
Ouais, » okay.
Mais dans le nouveau Front Populaire, entre chefs, quand on est juste tous les quatre, c'est pas, et avec Lucie Castet, j'ajoute qu'elle est à toutes les réunions, c'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est hyper précieux. Il reste cette force de rappel-là. Donc ça, je le dis et je les en remercie. Et parce que vraiment, même... Enfin, moi, j'arrive encore à discuter avec les trois, et Lucie, évidemment, et on s'appelle quasiment tous les jours en ce moment, et ça, c'est hyper important.
Donc le programme, la gauche de rupture.
Deuxièmement, le problème, c'est qu'on voit bien, par contre, il y a des stratégies différentes et des intérêts, en fait, divergents pour la présidentielle. C'est que Jean-Luc, il considère que c'est son moment, que ça a toujours été, que c'est après lui le déluge, mais moi, je suis désolée. Quand je vois les sondages de deuxième tour, bah, en fait, je suis inquiète. Moi, je veux pas Marine Le Pen.
Et oui, mais
moi, je m'en fous.
Tout à l'heure, t'as dit, il y a eu 27 sondages pendant les législatives qui donnaient le RN en tête, et puis finalement, ça n'a pas été le cas.
Ouais, mais c'était jamais très loin, c'était rattrapable. Là, si tu veux, enfin, moi, il y a un truc qui commence à m'interpeller, c'est une vraie angoisse, c'est que la France Insoumise est le parti le plus détesté des Français, bien devant le Rassemblement National. C'est inquiétant pour les Français, et j'ai vu là même que pour je sais plus combien de leurs électeurs.
Ils te diront que c'est à cause des médias.
Il y a je sais plus combien de pourcents de leurs électeurs qui ne souhaitent pas. Qu'il y ait un premier ministre insoumis, enfin, tu vois, il commence à y avoir un truc, y compris dans la base FI. Mais je sais aussi qu'ils sont capables, tout d'un coup, de dire pendant trois semaines, allez, là, on change de stratégie, ouais.
On envoie Jean-Luc Le Gris, respectable. En mode sage.
Je sais tout ça, mais à un moment, ça me stresse quand même. Et j'ai le droit. Et surtout, je pense que le but du jeu n'est pas d'être au deuxième tour, c'est de gagner le deuxième tour, surtout quand tu es face à Marine Le Pen, puis
être président de la République. Casting. Mais moi, je parlais du programme.
Non, mais oui, mais je réponds à Jean en même temps, si tu le permets, c'est comme son émission. Puis de gagner.
Non, tu réponds à la question de l'élection présidentielle,
puis de gouverner. De gouverner pour changer la vie vraiment. Et donc, c'est quand même, tu vois, être au deuxième tour, c'est que la première étage de la fusée. Et donc, si tu mets quelqu'un qui juste est deuxième tour, t'as oublié les étapes d'après. Ensuite, donc, moi, je pense qu'il faut un seul candidat, ou une candidature commune, s'il y en a vraiment, il y en a un qui boude sur le côté. Je pense qu'avec une candidature commune, à plein de gens, ceux qui veulent, on peut y arriver.
Un ticket, mais, une campagne commune.
Mais on voit bien que dans les réunions du jeudi matin, quand on parle de ce sujet-là, en fait, dans les réunions du jeudi matin, on fait plein de trucs urgents. Et du coup, faire l'urgent et l'important, c'est un métier quand même. On a du mal à faire l'important.
Tout le monde dit que oui, mais c'est parce que les Insoumis, ils ont 2027 en tête, et même avant, ils postulent, etc. Et au demeurant, ils ont le droit. Mais j'allais te poser la question, les autres, parce que ça va 5 minutes. Fabien Roussel, il m'a pas l'air super chaud pour se ranger derrière quelqu'un d'autre. C'est quand même sa ligne au PCF,
oui, mais c'est l'autonomisation pour ça que je te dis, du parti.
Donc tu vois,
chacun a sa dynamique. Mais je pense que quand tu parles de candidature commune, les gens y voient quand même. L'AFI, c'est plus compliqué, mais les gens y voient quand même. Avec Lucie, on essaye beaucoup d'en parler et on voit que c'est compliqué, y compris quand t'es chef de parti, t'as ton appareil, tout ça. Donc on s'est dit à un moment, et c'est peut-être pas un hasard que ce soit les deux meufs qui lancent le truc. On s'est dit en fait, il faut lancer un truc. Si on attend que tout le monde soit d'accord pour le faire, en fait, on le lancera trop tard. C'était déjà un peu trop tard parce qu'il y avait les histoires de motion de censure qui arrivaient. On pensait que ce serait autour du 20 décembre, au début de la motion de censure sur le PLF. C'est ce qu'avait dit Jean-Luc. Voilà. Ouais. Et bah, il s'est gouré. Et c'est arrivé un peu plus tôt, mais tant mieux vu le stress dans lequel ça plonge la France. Si on était le 24 décembre, ce serait quand même un peu désespérant. Et donc, on lance ce truc. Et vraiment parce qu'il fallait une impulsion de départ. Il fallait une impulsion de départ pour faire exactement ce que tu as dit. Commencer par travailler le projet. Et pendant qu'on travaille le projet, commencer à réfléchir à comment on désigne peut-être un candidat. Parce que si tu commences. Ta première réunion, c'est sur comment on désigne un candidat, t'es sûr que t'arrives jamais à la deuxième réunion. Donc, il faut un socle commun. Et d'ailleurs, on va voir quand on aura un socle commun que les gens, ils seront sondés. En fait, tu sondes, même sans nom, tu sondes qui veut voter le socle commun, la candidature commune. Les électeurs de gauche, ceux qui ont voté Jadot en 2019, Mélenchon en 2022, Glucksmann en 2024, ils voteront pour le socle commun, la plupart. Au-delà même de la question d'incarnation.
Il ne sera autorisé à se présenter à ce genre de primaire que de gens qui diraient ce sera pour porter ce socle commun.
Bah, c'est mon avis. Mais j'accepte d'autres avis, il faut qu'on en discute. Et surtout, ce qu'on voulait aussi, j'ajoute juste ça, c'est qu'il y a plein de gens qui ont été dans le NFP, qui veulent soutenir, s'engager, écrire le programme, faire plein de trucs, militer, mais qui ne veulent pas être membres d'un des quatre partis. Et ceux-là, bah, en fait, si on attend de pouvoir permettre un cadre commun NFP avec des adhésions, tout ça, ça ne se fera jamais. Il y a des trop d'intérêts divergents. Donc, on s'est dit, bah, ceux-là, ils viennent dans l'initiative. Et là, par exemple, on va faire un webinaire la semaine prochaine pour pouvoir discuter avec eux. On va créer des groupes de travail. On a écrit une petite feuille de route de ce qu'il nous semblerait falloir faire dans les mois qui viennent, qu'on va soumettre à tous les partis politiques. Pour qu'on l'amende avec eux. Bah, moi, par exemple, je pense qu'il faut faire un tour de France pour aller un peu rencontrer, tu vois, faire des étapes et pas que dans
une
des
grande
grandes
marche.
Villes. Comment ?
Une grande marche ?
Ouais, avec des cahiers de doléances qu'on mettrait après dans les sous-sols des préfectures.
Vous allez refaire
non, mais tu vois, il y a besoin, en fait, je pense qu'il y a besoin, pendant quelques mois, de se taire et d'écouter aussi. C'est important. C'est ce que j'ai fait quand je suis devenue secrétaire nationale. On a fait les états généraux de l'écologie. On s'est tu 150 jours. On a écouté. On a fait 250 réunions partout en France. On a fait des questionnaires en ligne. Il y a 200.
Oui, c'était intéressant, notamment les personnes qui avaient une sensibilité écologiste. Vous disiez qu'est-ce qu'ils reprochaient au parti écologiste.
Je disais, tu dis que tu veux voter pour nous, mais que tu ne peux pas le faire parce qu'on est ceci ou cela. Viens nous expliquer. Tu dis que tu devrais être adhérent chez nous, mais que tu n'as pas envie. Viens nous expliquer. Tu es parti.
Le résultat de ça, ça a été votre campagne aux européennes.
Merci, Usul. Je n'en attendais pas moins de fois. J'attendais la pique. Je trouvais ça trop sympa.
J'avais une petite question, justement.
Non, mais du coup, on a changé de nom, on a changé de logo, on a changé de statut, on a changé de fonctionnement, on a créé un statut. Il y a les adhérents, il y a des soutiens qui veulent pas adhérer, mais qui peuvent venir participer aux formations sur les municipales. Ils peuvent, enfin, on a vraiment créé un nouveau mouvement, quoi. Voilà. Ça s'appelle les écologistes. Et on peut rejoindre pour 1 euro si on veut adhérer, ou on peut soutenir. Et il y a eu, on a triplé le nombre d'adhérents, en fait.
Il y a eu une très légère coupure. Vous êtes de retour dans le chat avec nous. Vous inquiétez pas, ça a duré moins d'une seconde.
C'est quand Jules a été méchant avec moi.
On a censuré ta réponse. On ne voulait pas l'entendre.
T'aurais mieux fait censurer sa question.
C'est ça. Donc, c'était une très bonne question de la part de Jules, je trouve. Léa.
Juste pour être certaine que ça va dans le bon sens quand même, cette proposition que vous êtes en train de faire. J'imagine que vous y adossez une stratégie pour les législatives, parce qu'il n'y a pas que la présidentielle. Hein. Là, on voit bien à quel point les élections législatives peuvent avoir une importance. Et du coup, ça...
Ah bah bien sûr, mais en fait, Lucie et moi, on est fidèles à la promesse du nouveau Front Populaire. On ne veut pas faire autre chose, on ne veut pas dire, bah, vous restez là, nous, on va faire un truc mieux. On veut que le cadre du NFP perdure. Mm-hmm. Après, on peut changer de nom à un moment, tout ça, c'est pas grave. Hein, mais... ça, c'est... Et donc, là, je vois bien, hein, y a la menace nucléaire, c'est « si vous continuez, vous !» Eh ben, on fera plus d'accord législatif avec vous. Et ben, moi non plus. Et t'es là, ok, super. Bon, tout le monde va se détendre. On va rediscuter.
Mais quid des municipales d'ailleurs? Parce que là, les alliances sont en train de se jouer actuellement.
Eh ben, les municipales, c'est plus compliqué. Mmh. C'est plus compliqué pour plusieurs régions.
Oui, c'est aussi le cas.
Et pour plusieurs raisons. Parce que déjà, je prends juste le cas des maires écolos qui ont été élus en 2020. Mmh. Et aucun maire n'a été élu sans alliance. Donc, nous, vraiment, l'état d'esprit en 2020, c'était de bosser avec tout le monde. C'est comme ça qu'on a toujours fait. Sauf que, par exemple, à Strasbourg, il y avait Catherine Trottmann, pour ceux qui connaissent. Ouais. Catherine Trottmann, elle est socialiste, mais un peu à l'ancienne. Elle était maire, elle voulait sa revanche. Elle a dit « Jamais les Verts !» Et puis Jeanne, vers 5 ans, elle est jeune, elle est nulle, elle n'y arrivera jamais. Bon, non seulement elle a gagné, et puis ça se passe très bien. Mais Catherine Trottmann, elle est élue d'opposition. Et elle fait chier Jeanne Barseguian à chaque conseil municipal depuis 5 ans. Et donc, ni Jeanne n'a pas envie, je pense, de faire une municipale avec Catherine Trottmann, et Catherine Trottmann non plus. Et ça n'a rien à voir avec moi et Olivier.
Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des contextes locaux un peu compliqués.
À Bordeaux, c'est Philippe Poutou qui était pour l'AFI, qui et Pierre Urmic, je ne sais pas si vous voyez. Donc, déjà, Bordeaux, c'est une ville un peu plutôt centriste et tout. Philippe Poutou, il n'aurait pas gagné Bordeaux. Voilà. Ah non, Pierre Urmic, il gagne Bordeaux. Et Philippe Poutou, il est en opposition de Pierre Urmic, et ils n'ont pas envie non plus de partir ni en vacances ni en campagne ensemble. Et donc, il y a des villes où, par ailleurs, y compris électoralement, le Nouveau Front Populaire, stratégiquement, n'est pas la bonne chose à faire.
Ah bon?
Bah parce qu'il y a des villes qui se gagnent plutôt par le centre, il y a des villes qui ont des histoires comme ça. Moi, je vous dis ça, à Hélène Beaumont, j'ai fait une liste qui allait de la France insoumise aux gaullistes. Hein, donc, j'ai fait très très large comme rassemblement.
On parlait de Lyon, par exemple.
Voilà, des fois, ça a du sens, des fois moins.
Lyon, ça s'est bien passé pour vous quand même.
Exactement.
Tu vois, on disait toujours que Lyon était toujours très modéré, plutôt à droite.
Ce centriste,
Lyon. Oui, bourgeois centriste, tu vois, bourgeois centriste, bah, les écolos, vous avez été élus.
Oui, mais tu vois, par exemple,
Mais ils étaient divisés.
Je vais essayer que personne se sente ciblé.
Non,
mais
vas-y.
Bah, les insoumis, ils sont pas insoumis pareil dans toutes les villes. Et les socialistes, ils sont pas non plus socialistes pareil dans toutes les villes.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, c'est bon, j'ai insulté personne.
Vous et les Verts aussi, peut-être.
On n'a fait que constater la réalité.
Et les Verts aussi. Mais tu vois, il se trouve qu'à Lyon, il y a des adjoints insoumis. Je pense qu'ils sont... Ce que je lis dans la presse, c'est qu'ils se sentent respectés dans leur boulot d'adjoint. Je pense que les Verts, ils savent quand même faire ça, c'est-à-dire faire vivre un collectif. C'est pas un parti hégémonique, les Verts. Donc quand tu dis, bah, je vais être maire vert, il y aura de la place pour tout le monde sur ma liste, on va se faire confiance, c'est un truc sincère. Peut-être que des fois, c'est naïf, mais on est vraiment sincères. Et donc, quand on fait ensemble, ça marche. Là, j'étais à Nice, parce que j'ai fait le tour de toutes les villes de droite dont je pense qu'elles peuvent basculer. Là, vous dites Nice, la meuf a de l'espérance. Ben, en fait, sachez que Ciotti a décidé de se présenter contre Estrosi.
Ah,
et donc, c'est une super nouvelle.
Ça, c'était coup
de tube. Parce que la droite est éclatée, et donc, ça crée un petit chemin.
Et Nice qui devient écolo, franchement, je meurs de rire.
My dream.
Et ben, je meurs de rire.
J'y vais, 150 personnes dans la salle, toutes venues écouter comment aller faire, et avec des communistes, des insoumis, des socialistes qui viennent. Et il se trouve que, il y a une écolo qui est depuis plusieurs mandats dans l'opposition, qui a écrit à tous les directeurs d'école pour dire Estrosi, voilà leurs revendications, qui a obtenu des choses. La nana, elle est bien implantée, elle a été élue, les gens lui font confiance. Bah, tu vois, tout le monde est venu. Moi, j'ai dit, je dis pas, ça doit être une ville écolo, débrouillez-vous. Je dis, nous on propose Juliette, on met cette option sur la table. Si vous en avez d'autres, mettez-les, on compare, on prend une décision dans les semaines qui viennent. Et si vous partez ensemble en format NFP, moi je viendrai vous soutenir. Et j'ai fait ça dans plusieurs villes, à Mulhouse, je suis allée à Cholet, parce que je suis allée voir Michelin aussi qui faisait la manif, et il y a un écolo très très chaud à Cholet. Donc je suis allée à Lorient, enfin, il y a plein de villes qui peuvent basculer, et moi, je vais vous dire, c'est dans ces villes-là que j'ai envie de mettre mon énergie. La vérité, c'est que les endroits où la gauche va partir très divisée, souvent, c'est des villes de gauche, qui seront de gauche toute leur vie. Mmh. Bon, on est très contents pour les gens qui y habitent et pour les gens qui y militent, mais je ne vais pas y passer mes jours et mes nuits, ils n'ont pas besoin de moi. Je préfère aller dans les endroits un peu d'adversité, c'est ma formation politique made in Pas-de-Calais.
Ça, c'est les oui, c'est ça, je rappelle que tu es élu à Hélène Beaumont, dirigé par le Rassemblement National, donc c'est effectivement une philosophie d'action. On va là où on peut être utile pour gagner, là où on a déjà gagné, bon, on ne va pas y passer plus de temps.
On les laisse se débrouiller, on leur fait confiance.
Malek.
Une fois qu'on sera mis d'accord sur le socle, sur le fond des idées, si c'est pas primaire, est-ce que c'est cette technique de bah, nous on propose un nom, qui propose un meilleur nom, et ensuite on... En fait, j'arrive pas à savoir comment vous arrivez à vous mettre d'accord sur un nom à la fin des fins.
Pourquoi on ferait pas une primaire?
Parce que... Mais parce que les insoumis voudront jamais d'une primaire. Et que je continue de penser que ça doit se faire aussi avec les insoumis.
Mais les insoumis, ils veulent pas une primaire, mais ils veulent quoi en fait?
Ils veulent Jean-Luc et que
oui,
Jean-Luc.
Oui, bah donc ça c'est si le programme. Il y a une autre méthode.
C'est comme le programme. Quand ils veulent parler du programme du NFTR, quelqu'un qui a dit bah l'avenir en commun. Oui, techniquement oui, ils ont déjà.
Et d'ailleurs, j'ai pas répondu à Jules sur est-ce que vous faites un autre programme ou pas. Bon, la réalité c'est que le programme du NFP, moi je renie rien de ce qu'il y a dedans, mais il faut quand même avouer qu'on l'a fait en 4 jours et 4 nuits et que la dernière nuit, on était plutôt moins frais que la première. Donc, c'est mais bravo, on peut faire mieux. Non, mais tu vois, c'est logique. Je pense c'est pas sérieux de dire on l'a fait en 4 jours, en 4 nuits, c'est un truc pendant 50 ans, ça peut plus bouger, on touche plus, on verrouille.
Enfin, il y avait déjà des trucs déjà faits, il y avait déjà une base de discussion quand même avec l'avenir en commun.
Oui, mais c'est un problème, ça s'actualise. Et puis tu vois, dans les, quand tu écris ton programme, en fait, tu auditionnes la société civile, tu fais fonctionner des gens ensemble, tu crées des équipes.
Oui.
C'est hyper important. Donc, je pense qu'il faut le refaire. Ensuite, sur la méthode, moi, je suis une utopiste peut-être, ou alors une avant-gardiste, je ne sais pas encore.
Je suis avec toi, moi, sur l'utopisme.
J'ai toujours pensé qu'on pouvait faire autrement qu'une primaire, parce que je suis d'accord avec les insoumis sur tous les défauts que ça a une primaire. Déjà, quand tu es candidat à une primaire, imaginons, on est là, c'est les candidats de la primaire, bah, tu dois te démarquer. Donc en fait, tu es dans le même camp, mais tu vas dire « Et toi, en 1982, ça fait ça. Et toi, ne rigole pas, parce que t'as fait ça. Et toi, ça te fait rire. » Et tu vois, en fait, c'est mécaniquement, tu te sens.
C'est une machine à division,
le, ouais, et puis après, tu te retrouves, bah, tu gagnes, tu dois prendre les 4 autres en porte-parole, sauf que c'est les 4 que t'as insultés pendant toute la primaire. Enfin, tu vois, il y a un truc
ça,
quand
même... Non, mais ça a jamais dérangé personne. Hein.
Bah, en vrai, ça n'a pas empêché Hollande de gagner la présidentielle.
Oui, mais après, ça a empêché bien Hamon de la gagner quand même.
Ah bah ça,
et je te fais pas toute la liste des primaires écolo qui
c'est
se sont
pas ça le problème d'Hamon, c'est qu'il était trop de gauche pour le Parti socialiste.
Non, mais surtout qu'il devait assumer le bilan d'Hollande. C'était quand même ça qui était complexe.
On fait pas primaire, qu'est-ce qu'on fait?
Moi, je tout le monde s'est foutu de ma gueule quand j'ai dit ça pour Premier ministre, et c'est quand même ce qu'on a fait à la fin. Je disais, moi, je veux une... J'ai des critères.
Primaire
en fait.
Populaire.
Non, pour le Premier ministre, moi, je disais, j'ai des critères. Je veux quelqu'un qui, déjà, soit aligné avec le programme du NFP. Je veux quelqu'un qui soit capable d'apaiser un peu le pays. Je veux quelqu'un qui soit crédible et qui ait les compétences. J'avais listé fiche les critères, fiche de poste.
Mais les critères, on les écrit avec des arrière-pensées.
Bah oui, alors tout le monde disait, bah t'as dit quelqu'un qui fédère et qui apaise, donc c'est pas Jean-Luc. Bah désolé, mais Premier ministre, c'est quand même mieux quelqu'un qui fédère et qui apaise que quelqu'un qui engueule tout le monde.
Donc pas Jean-Luc.
Et à la fin, quand on a pris, tout le monde disait, mais des critères, tout ça, mais quand on a fait Lucie Castet, c'était quelqu'un qui respectait tous ces critères. La compétence, le fait
comme
de fédérer son camp. Comment?
Comme par hasard.
Non mais, quand j'ai fait les critères, je pensais pas à Lucie Castet. Je la connaissais pas vraiment, tu vois.
Tu parles de la négociation qu'ont eu les partis de gauche sur le nom pour un Premier ministre.
J'avais dit des critères dans la presse pour Premier ministre. Ouais. Et là, je pense que pour président, c'est ça qu'il faut faire.
Okay.
Et par ailleurs, c'est pas juste qui a le meilleur sondage pour être au deuxième tour. C'est qui peut gagner,
mais
qui peut gouverner.
Donc c'est pas une primaire, ça, c'est un accord entre partis.
Oui, mais tu vois, c'est hyper compliqué parce que c'est qui est légitime, c'est-à-dire que qui fait la fiche de poste,
ouais, mais
qui décide,
vous n'impliquez pas les adhérents du coup, c'est que les partis.
Enfin, oui, mais alors les adhérents. Par exemple, les adhérents.
Décideuses, pardon, qui.
Par exemple, les adhérents. Moi, les Verts, tu me dis, c'est tes adhérents qui décident, c'est simple. J'en ai une liste, j'ai 18 000, je clique, ça envoie. Si tu veux mettre les sympathisants, j'en ai 200 000, je clique, ça envoie. Mm-hmm. La FI, il y a que 3 adhérents officiellement dans leur statut.
Après, ils ont un fichier.
Ils ont un fichier avec
genre,
tu t'es inscrit pour faire une manif retraite en 2022, t'es inscrit à la newsletter de Mélenchon, tu vois. Tu t'inscris pour prendre le bus de la NUPES, tu finis inscrit à la newsletter de Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est quoi leur corps électoral? Tu peux pas le quitter d'ailleurs. Enfin, tu peux te désabonner de la newsletter, mais une fois que t'as cliqué
une
fois.
C'est particulier, la France Insoumise, effectivement, il n'y a pas d'adhérents.
C'est de la technique très rapidement parce que l'enjeu est quand même énorme, être candidat à la présidentielle, être président. Et donc, évidemment, que chaque voix compte et que, tu vois, vis-à-vis de la CNIL, il y a des réglementations quand même très précises. Moi, je l'ai fait parce que j'avais organisé la primaire des écolos la fois dernière. Ça rigole pas, en fait. Tu vois, y compris si c'est une primaire payante, c'est l'authentification avec une carte d'identité pour vérifier que tu existes vraiment, que t'as pas inscrit ton chat, ta belle-mère, sans son consentement et je sais pas quoi.
La petite empreinte CB et tout.
Voilà. Donc, c'est vraiment beaucoup de critères et se mettre d'accord sur ces critères est aussi compliqué, mais c'est la vie et je pense que, par ailleurs, rien n'est insurmontable parce que l'enjeu est trop grand et on va pas dire, on s'est pas mis d'accord sur les modalités d'organisation, donc on va pas le faire. Voilà.
Une primaire ouverte, un peu comme ce que vous aviez fait, c'est pas inintéressant.
Ouais, alors après, tu vois bien la primaire ouverte, le truc, c'est que t'as des... Là, on parle d'un enjeu quand même, une très grosse primaire avec un vrai enjeu d'être président à la fin. Et donc, t'as aussi des gens qui peuvent venir troller. Tu vois, c'est prouvé que la Russie, par exemple, maintenant, ils font des déstabilisations des votes.
C'est
t'as
pour ça que Sandrine Rousseau a pas remporté la primaire, alors.
C'était les Russes.
Ah, mais vous le dites, enfin, vous l'admettez.
C'était les Russes.
Non, mais tu vois, les républicains ou, je sais pas, des macronistes qui peuvent dire, on va tous aller voter pour Jean-Luc Mélenchon parce que, je sais pas quoi, ça va les faire chier, les socialistes. Enfin, j'en sais, il peut se passer tout dans tous les sens, en fait.
C'est pour ça qu'il faut les faire.
On réenchaîne les visios. et on discute et on se met d'accord sur un nom.
Vous enfermez les quatre comme façon conclave et vous attendez les
filles. Par contre, vraie question.
Finalement, le truc de la télé-réalité, c'était pas si mal. Hein.
Voilà. Ouais.
Non, mais vraie question. Par contre, qu'est-ce qui se passe si la présidentielle a lieu beaucoup plus vite que prévu? Voilà, un certain nombre de personnes en paysage politique se préparent. Est-ce qu'ils ont
ce que je disais à Lucie, puisqu'on discute de comment on organise tout ça, c'est qu'il fallait une méthode, la méthode pour 2027, et qu'il fallait une méthode d'urgence.
Et bien, Lucie Castel se présente, elle met tout le monde au pied du mur.
Et paf!
Non, j'en sais rien.
Alors, par exemple,
la méthode d'urgence, vous l'avez déjà urgemment actée?
La première réunion est la semaine prochaine, parce qu'on veut. En fait, on a lancé le truc et on a dit, on veut écrire la suite avec vous. Donc, tu vois, on veut. Mais
Macron, il pète un câble pendant la nuit, et là, j'en peux plus, ils me font chier. Il me mérite pas. Voilà. Demain matin, il annonce sa démission.
Vous savez que s'il y a une démission de Macron, la présidentielle est en 35 jours.
Ouais, 35.
Donc, ça va très vite. C'est-à-dire qu'en fait, t'as 4 jours pour décider qui, quand, comment, pour avoir les 500 signatures. Des maires, mais ça je pense que
c'est
une candidature commun à toute la gauche, on va y arriver, et même si on décide d'y aller tous séparément, on y arrive aussi. Mais c'est quand même une petite logistique, tu vois, parce que
on a réussi à se mettre d'accord sur des investitures, sur toutes les circos, sur un programme.
T'as pas vu la gueule des réunions?
Oui, c'est... j'ai vu votre tronche le jeudi soir.
On arrive à la fin de cette émission. J'ai pas de dernière question. Si
je pensais qu'il y aurait un jeu.
Non, le jeu, non, c'est entre nous, c'est pas avec les invités politiques. Après, ça fait connivence. C'est tout, on n'aime pas.
Oui, c'est vrai, on faisait ça avant.
En plus,
après,
on a arrêté parce que c'était très gênant. On jouait avec des ministres macronistes.
Moi, j'ai pas envie de jouer avec un macroniste.
On a joué le jeu, c'était un truc qui était sponsorisé par Jardiland ou Gamme Vert, on sait pas encore.
Ouais, on a parlé
d'arbres dans.
D'arbres de Matignon. Puisqu'on parle de Matignon, Marine Tondelier, on va tous aller se coucher là. Demain matin, on s'attend à un nom de Premier ministre. Quelle est la probabilité de chance que ce soit un Premier ministre du NFP?
Voilà, bonne question.
J'ai fait un tweet de la dernière chance, je sais pas si vous avez vu, j'ai dit si Macron attend, si parce qu'il médite sur ce sondage, et j'ai remis le sondage des 63% de Français qui disent on veut bien un Premier ministre de gauche qui renonce au 49-3. Et j'ai dit ça tombe bien, on renonce au 49-3, continue de méditer, il y a encore un espoir, l'élu porte conseil.
Et ça répond pas à ma question.
Bah oui, mais je sais pas, moi je suis pas astrologue, hein, désolé.
C'est toi qui l'as vu au jour de cette semaine, Macron. Oui. C'était la mieux placée du plateau pour nous dire ce que t'en penses.
Il a sorti de nom ou pas
vu deux mois,
non, il a pas sorti de nom. Il a pas sorti de nom.
Non, mais c'est pas un poker où il met une lunette de soleil, comme ça on peut pas lire dans ses yeux. Il y a pas un truc de. Franchement, j'en sais rien, j'aime pas dire n'importe quoi.
Il a l'air fatigué,
on va pas te forcer.
Pour Baxi,
à peu près autant que nous, tu vois, en vrai.
Il y a quelqu'un qui a dit si tu nommes Lucie Castet, j'annule tout. On va lui comme texto.
Bon. Non, mais sur Lucie Castet, c'est intéressant ce qu'il nous a dit, que c'était qu'il avait trouvé. Parce qu'il a. Le 23 août, le jour de mon anniversaire, on était donc tous dans le bureau d'Emmanuel Macron avec Lucie Castet, tous les chefs de parti et tous les présidents de groupes parlementaires. On était 12.
Ouais.
Et
pas de piscine à boules.
Et il a fait passer genre une sorte de grand oral de l'ENA, mais genre devant nous, c'était
très fort.
Elle nous avait raconté.
Et voilà, il a reconnu qu'elle était vraiment chouette. Enfin, tu vois qu'il n'y avait pas grand-chose à redire en fait, mais que c'est son camp qui allait censurer. Donc j'ai envie de dire aux macronistes, voilà, lâchez l'affaire, laissez-la. Puis, au pire, ça marche pas. Ils pourront dire qu'on était nuls, mais laissez-nous essayer.
Elle a été appelée?
Non.
Bon.
Bah, je sais pas, je vous dis ça à ma connaissance, mais.
On lui demandera. Merci beaucoup, Marine Tondelier, d'avoir accepté notre invitation sur le.